La langue, je suis vieille et j'entends pas très bien. Mon âme prend la parole. Non, t'es pas plus vieille que moi. Janice, normalement, je prends des notes sur mon ordinateur, dans mon ordinateur. Alors, puisqu'il faut que je ferme mon ordinateur, il me faudrait un papier pour pouvoir prendre des notes. Est-ce que quelqu'un en a? Non, mais il y aura une transcription et un enregistrement. Moi, j'ai été enseignante et nous savons que l'on retient davantage lorsqu'on écoute de façon attentive. Or, il y a quelque chose qu'on appelle le crayon. Et c'est surprenant, de temps en temps, je retrouve ces éléments qui, en fait, ce sont des amis. Y a-t-il d'autres questions? Très bien, je fais un bon travail ici. Je vais moi-même me féliciter. On va attendre quelques secondes et puis Patrick va commencer.
Oh, the other thing I forgot to mention yesterday too, from a food perspective.
Une autre chose que j'ai oublié de mentionner hier, du point de vue de l'alimentation, avant de partir, sachez qu'il y a du café et du thé, et prenez peut-être des fruits ou pour la journée, parce qu'on ne sait jamais si une séance va s'étendre, se prolonger, et que vous aurez besoin peut-être de manger quelque chose.
For the purposes of the transcript, this is Tuesday, July 16th, 7:30 a.m., Fellowship Morning Meeting.
Pour la transcription, on est le mardi 16 juillet, c'est la réunion des boursiers. Nous allons commencer dans les plus brefs délais.
And with that, I'll introduce our security.
Je vais donc présenter notre équipe de sécurité pour pouvoir commencer la séance d'aujourd'hui. Patrick est chef, je vous passe la parole. Ce sont des anciens boursiers qui connaissent les points fondamentaux. Nous avons ici des gens, des nouveaux venus, donc nous vous demandons de nous raconter ce que vous faites, les problèmes intéressants qu'il vous faut résoudre, les problèmes que vous avez résolus, etc. Soyez libre de parler de ce qui vous paraît le plus important. Je suis Patrick Jones. Ici, il y a Jeff Moss et Rick Brand. Rick va venir aussi. Nous faisons tous partie de l'ICANN depuis un moment. Rick et moi, nous avons occupé plusieurs postes. Jeff vient d'un autre domaine. Et nous pouvons donc vous parler de ce que nous faisons dans le domaine de la sécurité, mais nous pouvons aussi vous raconter des expériences intéressantes que nous avons eues et qui nous ont amenés jusque-là. Dans mon cas, j'ai occupé plusieurs postes, mais je n'ai pas commencé dans le domaine de la sécurité. J'ai commencé donc en 2006 et j'ai travaillé surtout dans l'espace de nombre de domaines. J'ai travaillé avec les marques et avec les cas de cybersquattage. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un espace qui me convenait. Quand je commençais, j'étais une liaison avec les registres et les bureaux d'enregistrement. J'ai donc commencé à travailler avec cette partie de la communauté. C'était un moment où la structure était plus petite et l'on pouvait passer d'un poste à l'autre avec de façon plus facile. Et j'ai trouvé ma place dans l'équipe de sécurité. Cela m'a permis de connaître d'autres domaines de la communauté. Cela m'a permis d'interagir avec d'autres membres de la communauté, rencontrer d'autres groupes, et cela est très enrichissant pour notre équipe. C'est très intéressant de pouvoir vous expliquer ce que nous faisons, connecter les gens, résoudre des problèmes. Nous nous considérons comme un pont entre les différentes communautés, car nous aidons les gens à se connecter lorsqu'il y a des attaques ou des logiciels malveillants. Parfois, il y a des difficultés pour identifier quelle est la partie de la communauté à laquelle il faut faire appel. Et nous sommes parfois donc le canal qui vous conduit vers la personne concernée. Je vais donner la parole à Rick et puis à Jeff. Soyez libre de... N'hésitez pas à nous poser des questions parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, finalement. Nous pouvons bien sûr vous parler, mais peut-être que vous avez des questions plus précises. Et ce que nous voulons ici, c'est d'établir un dialogue. Je suis Rick Lang et je suis plutôt un bénéficiaire d'Internet et du modèle multipartite. Je suis ingénieur et j'ai eu des projets et je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre. J'ai eu des entreprises et j'ai travaillé au sein du département d'État pendant un certain temps dans le domaine des affaires étrangères. Et à vrai dire, je ne me sentais pas tout à fait à l'aise. Par la suite, j'ai commencé à apprécier la subtilité de notre travail, notamment, je me demandais comment nous pouvons gagner de l'argent et en même temps gérer d'autres aspects, aussi bien techniques que non techniques. L'ICANN n'est pas un régulateur strict. Toutes les politiques de l'ICANN viennent de la communauté et sont basées sur le consensus. Cela nous permet d'obtenir des résultats qui sont beaucoup plus utiles. Peut-être que je suis un peu lent cette matinée, mais cela vous prendra un petit peu de temps de voir la différence entre quelque chose qui est très régulatoire ou réglementé et d'autres modalités. DEN, c'est SEC, c'est une autre responsabilité que j'ai eue au sein de l'ICANN. Je cherchais ma place. Pendant un certain temps, j'ai été expert en DNSSEC Et c'est un exemple de ce modèle multipartite qui est tout à fait ascendant. En tant qu'ingénieur, je sais très bien que les gens comme nous sont ceux qui font en sorte que les choses fonctionnent. Et c'est pour cela qu'il nous fallait avoir l'infrastructure de clés publiques, ainsi qu'une clé qui permette aux gens de valider les demandes de DNS. DNSSEC concerne la sécurité du système de DNS. De par ma fonction au sein du gouvernement, je disais non, il n'y a pas moyen que cela fonctionne, il n'y a pas moyen que cela puisse être géré. Mais nous sommes tous des ingénieurs, nous sommes tous des spécialistes dans les réseaux. Et donc nous avons dit, prenons 20 personnes venant de différentes parties du monde, des experts reconnus et des techniciens en la matière, et divisons le contrôle de cette clé parmi ces 21 personnes. Ce faisant, la chose a bien fonctionné. Nous pourrions dire, on pourrait dire, qu'on était en train de distribuer les responsabilités. Mais aujourd'hui, je suis fière du travail qui a été réalisé. On a essayé de faire cela avec les passeports électroniques, avec les puces qui ont été incorporées dans les passeports, avoir des vérifications croisées avec des certificats qui se partagent pour pouvoir mettre en place ces vérifications de la documentation. C'est une longue histoire, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous la raconter, mais comme Patrick l'a bien dit, je travaille ici, je fais beaucoup de travail de formation, et quand je parle avec les boursiers, je vous dis, vous avez beaucoup de chance. Parce que vous allez passer une semaine ensemble, vous allez établir des relations et lorsque vous aurez besoin de quelque chose, nous sommes en position non avantageuse parce que vous nous attaquez à partir de tous les fronts et vous pouvez constituer des regroupements très forts. Je dis ça de façon générale. Essayez donc de vous amuser et de vous reposer aussi. Il est important que vous communiquiez avec les gens, que vous posiez toutes les questions que vous avez. Aucune question n'est une question bête. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup avancé et qui ne comprennent pas encore comment travaille le DNS. Alors, je vous prie, n'hésitez pas à poser des questions. Quand vous allez me voir, avec plaisir, vous pouvez me poser des questions ou me parler, me faire des commentaires, etc. Bonjour, je suis Jeff Moss. Je suis directeur au sein de l'ICANN. C'est un grand plaisir que de travailler avec ces deux personnes. C'est un plaisir par rapport aux gens avec lesquels j'ai dû travailler dans le passé. C'est un plaisir aussi d'être ici pour vous parler du modèle multipartite et c'est un plaisir de travailler pour une société qui ne vend pas un produit mais qui essaie de fournir un service à la communauté. On ne parle pas de marge de bénéfice, date de livraison, réduction les effectifs pour réduire les coûts. Non, nous nous centrons sur des points plus importants. Il s'agit de relations, il s'agit d'écouter les attentes et d'aider les gens. Et cela est vraiment très, très enrichissant. L'ICANN est un groupe très enrichissant pour travailler, pour fonctionner, que l'on peut appeler notre maison. Au sein de l'équipe de sécurité, on parle de deux points différents. D'un côté, des aspects internes à l'ICANN, ce sont les opérations internes à l'ICANN, nos systèmes informatiques. Nous travaillons sur quelque chose qui s'appelle TMCH. Il y aura des audits de sécurité. Il faut s'assurer que les développeurs soient satisfaits avec les problèmes de sécurité. Il faut faire en sorte que les gens puissent recevoir les informations comptables. Et puis, en ce qui concerne le renforcement des capacités, nous travaillons avec l'IETF, avec l'ISOC, avec le groupe de prévention des utilisations malveillantes, avec l'Interpol, le hameçonnage. La perspective de l'ICANN nous considère un groupe de collaboration. Nous consacrons beaucoup de temps aussi à essayer de comprendre vers où se dirige l'ICANN, essayer de nous anticiper. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec les organisations de soutien et les comités consultatifs. Nous aurons, par exemple, très souvent, nous aurons deux rapports de participation aux coalitions et aux domaines. C'est un groupe où l'équipe de sécurité donne le point de vue de la sécurité. Il est très intéressant de voir que notre travail apparaît dans toute la communauté. Comme je vous disais, c'est très bien de voir que ce que l'on fait apparaît quelque part dans la planète. Je suis ici à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, je suis Paul Machene. Je suis boursier. Je viens du Kenya. Je voulais savoir, à partir de votre expérience, quelles ont été les menaces les plus importantes que vous avez trouvées au niveau de la racine et quelles sont les menaces les plus récentes? Que pouvez-vous raconter par rapport à cela? Je dirais que la menace la plus spectaculaire, la plus diffusée, a eu lieu il y a plus d'un an. Le piratage qui a fait tomber la racine, a tombé en panne la racine et qui a perturbé tous les services. C'était il y a un an et demi. C'était des attaques et l'infrastructure de caching a subi une attaque pendant 2 jours. Et si la racine est attaquée, on peut avoir des perturbations pendant une journée. Vous avez probablement lu l'historique de cette attaque. Il s'agissait d'une menace réelle, de toute façon. La méthodologie d'attaque a été valable, mais ils n'ont pas pu atteindre l'objectif final. Il y a eu aussi une attaque anonyme en Syrie. Ils avaient décidé que attaquer la Syrie était plus sexy que d'attaquer la racine. Et périodiquement, on peut constater que des attaques à la racine sont mises en place comme une façon de contester ou de protester par rapport à certaines choses. Nous travaillons pour élargir le footprint parce que la seule défense contre ces attaques, c'est de monter en puissance. Même si personne n'attaque la racine, le fait d'avoir davantage d'utilisateurs dans le réseau, davantage de dispositifs mobiles, les mêmes consultations augmentent, les consultations même augmentent les menaces. Donc il faut toujours monter en puissance. Mais la seule défense réelle contre les menaces, c'est justement cette montée en puissance. Pour compléter, l'attaque la plus récente que nous avons pu constater, ce sont les attaques à l'interface web des CCTLD. Hier, c'était le CC Tech Day et il y a eu une présentation très intéressante de Google où des exemples ont été montrés par rapport aux deux ou 3 dernières années, de plusieurs registrants et bureaux d'enregistrement de CCTLD qui ont subi des attaques. C'est le type d'information pratique que nous trouvons souvent dans ces réunions qui peuvent vous intéresser, bien entendu. Bonjour à tous. Patricia Sangot de Sénégal. J'ai une question par rapport à la capacité des projets de développement en Afrique. Nous en avons quelques-uns. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage? Je commence et puis je passe la parole à Rick. L'ICANN a travaillé avec des partenaires dans le monde entier, avec les organisations régionales de TLD, ainsi qu'avec d'autres organisations, avec ISOC et d'autres, pendant une période de 10 ans. Et différentes actions de formation ont été mises en place, des actions spécialisées pour mettre en place les DNSSEC. Ces formations ont été faites par RIC, mais nous avons aussi mis en place des formations dans le cadre des réunions de l'ICANN et en dehors de cet espace, DNS, les fondements de base de DNS, la connaissance de l'application de la loi pour les opérateurs de CCTLD, pour les formateurs. Et nous avons également des formations pour la réponse face à des urgences, comment se préparer à une attaque, augmenter le niveau de connaissance des opérateurs et bien sûr des formations plus spécialisées, les opérations de sécurité des registres. Rick, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sauf le fait de dire qu'une grande partie de cette formation est pratique, de nature pratique. Ces formations couvrent l'élargissement des connaissances en matière de sécurité, les recherches, le déploiement de DNSSEC, etc. Un CCTLD en particulier qui doit recevoir des aides spécifiques ou qui décide de consacrer un temps spécifique peut demander ce type de formation. Une autre question, je suis Adrián Quesada Rodríguez du Costa Rica. Je suis avocat. La cybersécurité, je suis très intéressée à la cybersécurité et je me demandais si vous pouvez nous donner 3 exemples de problèmes que votre regroupement est en train d'analyser et comment les membres peuvent aider le regroupement dans ces questions. Jeff et moi, on pourrait très bien répondre à votre question parce que nous avons travaillé dans le domaine juridique, même si nous sommes à la base des techniciens. Nous avons aussi une perspective juridique. Cela est très utile pour nous. Jeff, je pense que toi, tu pourrais ajouter davantage d'éléments. L'aspect juridique s'applique davantage à la politique, mais c'est un domaine qui est en pleine expansion, malheureusement. Je ne sais pas combien d'entre vous le savent, mais il y a 5 ans, on avait l'impression que les gouvernements se penchaient beaucoup sur cet aspect. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Je ne sais pas. Aux États-Unis, il y a 3 ou 4 ans, les gouvernements voyaient cela avec de bons yeux, le fait de parler avec les entreprises, avec les différents organes gouvernementaux pour leur expliquer pourquoi cela est important, pourquoi ce que c'est qu'une menace, etc. Donc, les antécédents juridiques vont vous aider à déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Où consacrer votre énergie? Pourquoi le codage XML est important ou pas? Tout cela, pour tout cela, il faut des outils pour expliquer à une entreprise, à un gouvernement, etc. Je pense que donc ce côté juridique est un plus parce que les gens qui travaillent dans la technique doivent s'appuyer aussi sur les gens qui travaillent dans le domaine juridique. Il y a une couche du modèle qui parle justement des politiques. Bonjour, je suis Kellen Davis de la Jamaïque. J'ai 2 questions. De nature stratégique, quel rôle jouera l'ICANN dans le domaine de la sécurité dans les 5 prochaines années du point de vue des menaces à la cybersécurité? Et puis la deuxième question, quelles sont les menaces possibles dans le cadre du programme des nouveaux GTLD? Je ne sais pas si Rick a parlé des menaces au DNSSEC. Quand les DNSSEC sont déployés, on obtient des bénéfices en termes de sécurité, mais on fragilise également le système parce qu'on le rend plus souple. C'est une décision consciente qui a été prise par les ingénieurs. Est-ce que tu es d'accord? Tout à fait d'accord. De façon plus abstraite, ce que l'ICANN incorpore, c'est cette construction ou renforcement de capacités. Nous ne contrôlons pas l'Internet, même si certains disent que c'est le cas. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'utiliser notre position pour essayer d'aider les décideurs à mieux comprendre de quoi il s'agit. Bien entendu, je suis un geek, je suis un grand amateur de l'informatique. Mais en ce qui concerne les 5 prochaines années, comment l'ICANN peut contribuer à mieux gérer les menaces à la cybersécurité? Des gens comme Rick, comme Patrick, des gens qui comprennent bien les problèmes concrets, pourront aider les décideurs. Et pour répondre à la première partie de votre question, je ne sais pas combien d'entre vous ont participé à la séance de planification stratégique d'hier, mais c'est exactement la question que nous posons au reste de la communauté. Et si vous avez des idées, il y a un moyen de les présenter pour qu'elles puissent être prises en compte. Plusieurs aspects sont analysés et évalués. Nous aurons mercredi matin une séance où nous allons parler et mettre à jour les informations sur la stabilité et la sécurité du système. C'est une réunion qui aura lieu mercredi à 9h30. Et nous allons organiser cette séance à laquelle vous êtes les bienvenus.
Je m'appelle Ousmane Doïda, je viens du Nigeria. Ce que j'ai remarqué pendant ces derniers jours, depuis mon arrivée, c'est que l'ICANN essaie de faciliter les choses à tous. C'est aussi un lieu où il y a beaucoup d'harmonie et de créativité. Je remarque cependant qu'il y a certaines personnes qui essaient de porter atteinte aux efforts de l'ICANN. En rendant difficile la communication entre les personnes, tout en détruisant les moyens de communication. Je me demande comment l'ICANN peut arrêter ce type d'activité. Et deuxièmement, tenant compte de ces défis, je demande ce que fait l'ICANN pour impliquer les différents gouvernements dans la solution, pour trouver une solution à ces problèmes. Merci. Dans la perspective des gouvernements, nous avons une équipe de participation mondiale, des parties prenantes. Il y a des vice-présidents dans les régions. Nous avons annoncé qu'il y a une hypothèse pour que la communauté se rapproche de nous. D'ici peu, il y aura un bureau à Istanbul et ensuite à Singapour. Il y aura des vice-présidents régionaux dans ces deux lieux. Ces personnes travaillent de façon étroite avec leurs collègues dans les différentes régions et les gouvernements sont une contrepartie importante. Donc, nous écoutons tout ce qu'ils ont à nous dire. Il y a d'autres représentants de gouvernements et de pays qui participent au GAC. C'est un exemple donc de cela. Je ne sais pas si dans ce groupe il y a des membres du GAC, mais il y a une participation qui s'accroît chaque jour. Il y a 17 boursiers au sein du GAC. Il y a Salina qui est là et Nelly aussi. Elles ont toutes les deux une expérience au sein du GAC. Il y a une représentation. Elles vont assurément être disposées à parler avec vous. Je suis heureux de voir qu'il y a cette question. Sur le système en ligne, bon, c'est une question de Jean de la SOC qui dit bonjour à tous. Quelles sont les procédures et les critères pour participer à l'ICANN et pour avoir un projet qui puisse avoir une influence sur la communauté? un projet de cybersécurité, par exemple, ou un projet pour, enfin, élargir la connaissance de ce que fait l'ICANN et qu'on n'a pas les fonds et que l'on veut avoir le soutien de l'ICANN. Quelles sont les procédures à suivre, cette organisation, quelle procédure doit-elle suivre pour promouvoir son projet et trouver un financement? Une manière de le faire, c'est d'analyser le matériel que nous fournissons. Nous avons publié cette année un cadre de sécurité dans les 6 langues des Nations Unies et en portugais. Nous fournissons aussi beaucoup de documents qui sont faciles à comprendre en ce qui concerne la sécurité. Il y a aussi tous les matériels pour la formation, les documents pour la formation. Qui explique à l'organisation, à la structure à large, ce que l'on peut partager, ce que l'on peut, comment on peut faire pour développer un projet. Cela se trouve sur ICANN.org. Cette information, vous trouverez tout ce qui est nécessaire sur la page principale concernant ce matériel. Là, vous allez avoir des photos. Vous aurez une information dans l'onglet intitulé « À propos de », à part l'information sur le programme des boursiers. Mais enfin, d'après ce que je sais, je ne sais pas si nous avons un système de financement dédié pour les projets. C'est quelque chose que les ALS doivent proposer dans le comité consultatif d'At-Large. Il faut que vous voyez un tout petit peu quelles sont les occasions qui vous sont fournies dans l'espace d'At-Large. Vous ne devez pas vous limiter à un groupe spécifique. Vous pouvez toujours avoir recours à notre équipe et nous allons vous rediriger vers l'entité la plus appropriée. Mais vous pouvez aller voir pour votre propre compte quels sont les autres groupes existants. Patrick, tu viens de dire quelque chose dont je me souviens depuis ce matin. Il y a un financement pour les demandes spéciales en moyenne des organisations de soutien et des comités consultatifs dans le budget qui vient d'être approuvé dans cette semaine par le conseil d'administration de l'ICANN pour le prochain exercice, l'exercice 2013-2014. Bon. Dans ce budget, l'on prévoit que tout un chacun peut présenter une demande de financement qui doit être présentée par l'intermédiaire de l'organisation de soutien du comité consultatif. Cette demande ne peut pas être présentée par une personne à titre personnel, à titre particulier. Il faut faire passer cette demande au moyen des organisations de soutien ou des comités consultatifs. La limite se trouve entre 500 000 et 800 000 dollars. Voilà notre prochain orateur, dit Janice, et tenant compte de l'ordre du jour très serré que nous avons aujourd'hui, je voudrais clore cette séance. C'est quelque chose qui nous met dans une situation d'enthousiasme, parce que lorsque nous avons des personnes qui s'y connaissent en sécurité, nous voulons qu'ils restent avec nous pour toujours. Patrick ne peut pas rester avec nous, parce qu'il est vraiment très pris par ses obligations, mais c'est quelqu'un qui est très généreux. Nous allons voir si nous pouvons compter sur sa participation plus tard et si nous trouvons une salle. Nous ne l'engageons pas, mais nous reconnaissons que la conversation est vraiment intéressante. Si vous avez d'autres questions à propos de la sécurité, c'est Patrick qui prend la parole. Je veux que vous sachiez que si vous avez davantage de questions sur notre travail et sur d'autres thèmes, la séance de mercredi sera ouverte. Elle se fera à la salle 6. Il y a beaucoup de place pour tous ceux qui voudront s'y rendre. Donc, je vous attends tous, très nombreux. Il y a Janice qui parle. Et maintenant, merci. Jeff, maintenant. Nous sommes aussi dans le processus pour lancer une nouvelle page pour le groupe. Nous aimerions bien savoir quels sont vos commentaires, si vous croyez qu'il n'y a pas un article ou un lien vers une bibliothèque déterminée. Faites-nous savoir cela parce que nous voulons que notre page de sécurité soit aussi complète que possible. Ah bon, on vient de me dire qu'elle n'est pas encore active. Patrick maintenant parle. Oui. Elle est là, mais avec tout le travail et toutes les publications qu'il a fallu faire pour cette réunion, la page sera opérationnelle assurément à la fin de la réunion de Durban. Bon, Jeff parle maintenant. Lorsque vous vous rendrez chez vous, que vous rentrerez une semaine après la fin de la réunion, vous pourrez vérifier si notre page est là et vous pourrez nous dire s'il y a quelque chose qui manque à votre avis. Janice remercie. Voilà.
While Joette has a mutual...
C'est Janice qui prend la parole. Pendant que l'on se prépare pour nous montrer ce qu'il y a, le NOMCOM, le comité de nomination de l'ICANN, est un composant essentiel de l'ICANN. Nous le voyons d'une manière générale comme un organisme un peu plus silencieux. Vous le trouverez si vous regardez le modèle de multipartite. Vous pouvez trouver ce comité de nomination. Ces dernières années, après 7 ans de vie active au sein de l'ICANN, moi je peux dire qu'ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont mieux intégrés dans cette famille de l'ICANN. Donc ils viennent toujours aux réunions des boursiers le matin pour que vous puissiez comprendre quel est le but de ce comité au sein de la structure de l'ICANN et comment vous pouvez le faire indépendamment du niveau auquel vous participerez. Donc, comment vous pouvez faire pour faire venir plus nombreuses les personnes dans la structure de l'ICANN. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'avoir permis d'être ici. Je m'appelle Uriel Lassipala. Je suis le président du comité de nomination 2013. Je viens de la Finlande. Je suis le président de l'ISOC en Finlande. C'est l'une des structures à large. Qui travaille ici? Le comité de nomination doit être en quelque sorte expliqué à partir du nom qu'il a, parce qu'il y a beaucoup d'organisations et d'associations qui ont des comités de nomination dont le but est de nommer des candidats à certains postes. Et ensuite, la décision finale est prise dans une assemblée générale annuelle par un tout autre moyen. Le NOMCOM s'occupe non seulement de la nomination, mais aussi de la sélection des personnes. Lorsque nous choisissons quelqu'un pour qu'il soit élu pour un poste de direction, nous nous assurons que cela se fera de manière sérieuse, responsable. Et comme l'ICANN n'a pas de membres ni d'actionnaires, disons, le processus est toujours très démocratique pour la sélection des personnes. Le comité de nomination essaie de remplir son rôle parce qu'il est composé des représentants de tous les regroupements dans ce monde multipartite qu'est l'ICANN. Toutes les organisations de soutien, les ALAC, les comités ont des membres avec le droit de vote au sein du comité. Il y en a d'autres qui n'ont pas le droit de vote, mais qui viennent de la SSAC et de la RSSAC. Il y a un président élu qui commencera son mandat l'année prochaine et une présidence associés dont les fonctions seront exercées, mais sans le droit de vote. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous faisons. Au comité de nomination, il y a 8 membres du conseil d'administration, 3 de la GNSO, 3 de la CCNSO et 5 membres de la LAC. Cette année, notre travail consiste à choisir 3 membres pour le conseil d'administration, 2 pour la GNSO, 1 pour la CCNSO et encore un autre pour remplacer une personne qui a présenté sa démission et 3 pour ALAC, qui devrait venir de l'Afrique, de l'Asie Pacifique et de l'Amérique latine. Alors, comment faisons-nous notre travail? Le travail du comité de nomination commence pour nous, comme cela s'est passé à Toronto. Voilà notre point de départ. La première tâche consistait à faire un travail de diffusion externe et un recrutement de personnes. Nous essayons en premier lieu d'avoir autant de candidats avec de bonnes qualités que possible. Parce que si notre base de candidats n'est pas bonne, nous ne pouvons pas produire, enfin, nous ne pouvons pas proposer des personnes pour remplir des fonctions comme ça en partant de néant. Donc, ce qui était très important, c'était de réunir une bonne base de candidats bien qualifiés. Nous avons eu cette année un nombre record de candidats. Nous avons eu 11 candidats. Il y en a un qui nous a quittés, mais il y a de toute façon 110, bon, comme nous en avions en 2012. Donc, je suis vraiment très content de enfin constater qu'il y a encore un intérêt très fort à occuper un rôle, à prendre un rôle de type volontaire au sein de l'ICANN. Nous avons pris aussi cette année les services d'une société de recrutement, une société bien sûr extérieure à la structure de l'ICANN. Et je dois dire que nous ne travaillons pas comme des chasseurs de tête. Nous recherchons des personnes pour jouer les différents rôles chez l'ICANN. Ces personnes ne doivent pas avoir le même profil, par exemple, que le membre d'un conseil d'administration ou dans d'autres domaines. On s'attend à une rémunération très importante, comme cela peut être le cas dans une grande société commerciale qui fonctionne d'une manière très différente de du fonctionnement que nous constatons au sein de l'ICANN. Il y a un terme que Fadi a utilisé et que nous utilisons, c'est la passion. Pour pouvoir jouer ces rôles et occuper ces postes avec une très faible rémunération ou sans rémunération du tout, il faut être passionné de l'Internet, de l'ICANN et du modèle multipartite sur lequel nous travaillons et que nous essayons de développer. Alors, lorsque ces candidats-là, au nombre de 110 par exemple, se présentent pour la date butoir qui s'était étendue jusqu'au 15 mai, la deuxième étape commence là. Il y a la phase où l'on commence à évaluer les candidats, où l'on commence à faire une enquête. Il y a une page wiki pour voir les opinions de nos membres à propos des candidats que nous leur présentons et nous transformons, enfin nous réduisons ce premier nombre de candidats à un chiffre plus raisonnable qui nous permet de nous focaliser dans notre analyse. Pour le cas des candidats, pour le conseil d'administration, il y a un certain nombre de candidats qui, enfin, se présentent à une interview avec une société allemande de recrutement de personnel. Et les membres du comité obtiennent donc une évaluation professionnelle des vertus de ces candidats-là. Nous recherchons des personnes, lorsque nous parlons spécifiquement du conseil d'administration, nous recherchons des personnes ayant une expérience pour ce type de travail. Cela ne signifie pas que leur expérience doit venir d'une société commerciale, d'une entreprise. Cela pourrait, il pourrait s'agir du domaine de l'enseignement, de l'académie. Hein. Il faut que ces personnes-là puissent démontrer leur capacité à s'occuper d'un certain nombre de responsabilités. Par exemple, un budget de 160 millions. Annuel. Et enfin, en dernier lieu, mais ce n'est pas pour cela un point moins important, nous recherchons quelqu'un qui puisse se sentir à l'aise dans un domaine de travail, dans un environnement de travail à l'échelle mondiale. Nous recherchons des personnes ayant aussi une expérience avec le modèle multipartite, qui aient déjà participé de manière active à ce type d'environnement, et des personnes qui sachent ce que cela peut signifier, le développement de politiques avec une approche ascendante. Il y a donc une liste très longue des qualités que nous recherchons chez les candidats. Bien sûr, nous avons des critères pour les membres du conseil d'administration et pour le comité de gouvernance du conseil. Nous avons aussi ces critères pour la communauté, parce que pendant ces réunions, comme nous l'avons fait à Toronto et à Pékin, nous avons des réunions avec les différents regroupements et nous écoutons leurs opinions sur les personnes qui devraient prendre des rôles au conseil d'administration, à la CCNSO, à la GNSO et au sein de l'ALAC. Comme des personnes qui sont nommées par le comité de nomination. Dans toutes les organisations, il y a des personnes qui ont été choisies par les regroupements. Ces personnes-là, du comité de nomination, auront une position plus équilibrée parce qu'elles n'auront pas d'intérêt déterminé personnel, hein, pour représenter l'intérêt de leur unité, de leur regroupement. Il y a eu cette année des progrès en ce sens que le comité de nomination de l'ICANN, enfin, historiquement, le comité de nomination était considéré comme une espèce de boîte noire, un organisme qui travaillait dans le plus grand secret, dont personne ne connaissait le mode de travail. On a commencé à voir une fumée blanche et on s'est dit « Habemus papam ». Donc on a un pape. Donc on a essayé de modifier cette modalité de travail, Donc, à partir de la révision de la TRT1, de l'équipe de la TRT1, de l'équipe de révision de la responsabilité de la transparence, à partir donc de cette analyse qui a été mise il y a deux années, on a vu apparaître ce thème de la transparence qui doit être le point central du travail du NOMCOM. Bien sûr, comment avons-nous fait pour résoudre cette espèce de paradoxe? Nous devons travailler de façon discrète. Nous ne pouvons pas, dans la confidentialité, et nous ne pouvons pas parler par-ci, par-là, des noms que nous avons choisis. Quand nous nous sommes réunis à Toronto, nous avons dit la procédure, le processus est ouvert, mais les noms sont confidentiels. Et je crois que nous avons pu, enfin, avoir une réussite assez intéressante en ce qui concerne cette modalité. Le comité de nomination, depuis les réunions de Toronto et de Beijing, a eu un fonctionnement plus ouvert que jamais. Et hier même, nous avons fait preuve de ce caractère ouvert. Nous avons émis aussi des rapports de progrès mensuels. Ces rapports mensuels de progrès sont le résultat d'un travail de rédaction collectif, mais ensuite, les représentants des regroupements sont responsables de la transmission de ces rapports à chacun de ces regroupements. J'ai parlé un peu trop longtemps, je vais donc m'arrêter ici. Janice prend la parole. J'ai déjà entendu dire cela avant, mais toi tu parles, et il faut que je te dise ici, et je souris. J'ai dit la même chose à Alice Cooper hier. Si vous prenez la personne correcte pour la personne appropriée pour un poste déterminé, cela change les choses complètement. Je veux te féliciter parce que pour moi, cette présentation est vraiment quelque chose qui me pousse à vouloir avoir davantage d'informations sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que pendant longtemps, on avait la sensation que c'était une boîte noire et puis on a vu apparaître cette fumée blanche. Mais... Et ensuite, cela est devenu de plus en plus transparent. Ce n'est pas la première fois que j'entends dire ceci, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ce serait peut-être bon aussi d'avoir la vision de Sarah Nouche et d'autres collègues, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, pour les boursiers, bon, je sais que bien des fois, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous venez ici nous parler, nous adresser la parole. Moi, je n'ai pas moyen d'occuper ce poste, donc... Permettez-moi de voir ce qui se passe un peu autour de moi dans mon ordre du jour. Donc, Alain Louche pourra peut-être nous donner son point de vue en tant que boursière. Il y a Sarah Nouche qui vient de l'Arménie qui prend la parole. Vous savez, à vrai dire, que je suis venue au sein de la LAC par l'intermédiaire du programme des boursiers. J'ai été ensuite nommée par la LAC pour prendre mon poste au comité de nomination. Cela prouve que c'est une voie possible, un cheminement possible pour tous ceux qui sont ici. Travailler au comité de nomination présuppose la connaissance d'une autre facette de l'ICANN. J'ai été là pendant 2 ans, je suis là depuis 2 ans, et il y a une différence extraordinaire entre la première année et la deuxième année. Notre président vous a dit qu'il y a plusieurs réunions publiques qui sont menées à bien, et cela a nous a permis d'avoir une approche complètement différente pour le comité de nomination. Cette année, nous avons... des candidats vraiment nombreux. Et je me sens toujours très heureuse de voir les noms qui se présentent en provenance du programme des boursiers. Et le nombre de personnes en provenance de ce programme s'accroît de plus en plus. Ce programme donc apporte l'information nécessaire pour les gens du Nomcom et il permet aux gens de trouver leur voie. Je voudrais dire encore quelque chose. En 2010, le comité de nomination, même si je n'y participais pas encore, avait élu une personne pour la CCNSO et c'était un boursier. C'était quelqu'un qui venait de l'Albanie. C'était un membre du programme des boursiers. Voilà. Donc... le moyen de participer pour les boursiers, pour qu'ils puissent trouver leur voie au sein de l'ICANN.
En ce qui concerne le comité de nomination, d'après mon expérience, quand vous venez d'un regroupement au comité de nomination, vous ne représentez pas votre regroupement. Lorsqu'on sélectionne des gens, on se met dans une perspective générale et non pas dans une perspective du regroupement auquel on a appartenu. Donc, il est très important d'oublier la représentation de regroupement auquel vous avez appartenu et avoir une perspective mondiale, globale. C'est un travail difficile dans une certaine mesure pour trouver la personne correcte dans un groupe de dizaines et centaines de personnes qui peuvent être correctes pour le poste. Nous avons 60 personnes qui se sont portées candidates pour le conseil d'administration et nous ne devons choisir que 3. Imaginez cela. Et ces 60 personnes, ce sont des professionnels remarquables avec énormément d'expérience, beaucoup d'expérience dans ce type d'activité dans le monde entier. C'est un travail difficile, mais nous avons des réunions mensuelles. Et après le 15 mai, nous avons des réunions hebdomadaires pour discuter du profil de chacune des personnes, de chacun des candidats, parce que nous ne voulons pas rater les meilleurs candidats pour ces postes. Et nous devons être responsables des choix que nous faisons. Voilà, ce serait tout. Ginny prend la parole. Je vous connais très bien. Je sais que vous pourriez continuer à parler. Mais si vous voulez dire quelque chose, nous avons deux boursiers dans le comité de nomination. Rafik, c'est le prochain à parler, sinon Janice prend la parole. Si vous voulez parler, je vous invite à le faire. Ce n'est pas seulement de la question de trouver la personne correcte pour le comité, mais aussi le fait de savoir c'est qui, à qui je connais, quel est mon réseau de contact, et dans mon réseau de contact, qui pourrait être un bon candidat. Parce que avant d'entrer dans le comité, il y a des gens qui ne connaissaient pas, bien sûr, le fonctionnement de l'ICANN. Moi, c'était le cas pour moi il y a 7 ans. Mais ces gens-là avaient des qualités et pouvaient travailler pour améliorer l'ICANN. Il faut donc penser que peut-être que ce n'est pas vous les candidats maintenant, mais ce que vous devez faire, c'est de penser aux gens de votre environnement, de votre entourage qui pourraient occuper ce poste. On pourrait avoir des jeunes entrepreneurs de l'Afrique, on pourrait les faire venir. Mais c'est vous qui devez les faire venir. Donc pensez qui vous connaissez dans votre réseau de contact qui pourrait s'incorporer dans l'ICANN avec une vision nouvelle, avec une approche nouvelle. C'est un peu comme les candidatures à participer du programme de boursier. Parfois, on doit rejeter certaines candidatures et ça peut être décourageant. La même chose peut se passer dans le comité de nomination. On peut pas accepter tout le monde. Mais n'hésitez pas à participer et pensez à votre réseau de contact. Pensez au travail que nous faisons ici et puis pensez à tous les gens que vous connaissez et à l'impact que pourrait avoir une de ces personnes que vous connaissez. C'est celui-là le message qu'il faut faire passer. Un dernier commentaire, nous allons nous réunir et il nous faut votre collaboration pour la diffusion externe. L'année prochaine, après Buenos Aires, il y aura des postes à pourvoir. Et tel que Janice vient de vous le dire, pensez à vos réseaux, pensez aux gens que vous connaissez dans vos communautés pour couvrir ces postes de leadership. Je vous encourage donc à en parler à vos proches, aux gens de votre environnement pour qu'ils y participent. Vous allez connaître les délais, les dates, nous allons diffuser toutes ces informations et donc je vous demande de bien vouloir diffuser ces informations, de faire connaître en dehors de l'ICANN la possibilité de participer auprès des communautés locales. Bonjour, Karel Dakes de Trinité et Tobago. Merci, c'était très intéressant. Je pense qu'il s'agit d'un processus qui vise à faire participer les gens à l'ICANN. Ma question est la suivante. Est-ce que ce processus est ouvert à tous? Peut-être que vous avez déjà répondu à cette question, mais est-ce que les gens à l'intérieur de l'ICANN, les gens à l'intérieur de l'ICANN ont un avantage si quelqu'un se porte candidat et qu'elle appartient à l'ICANN? Est-ce que cela pose un avantage? Quand on parle de la diffusion externe, il y a des gens qui ne connaissent pas les CAN. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la norme veut que le candidat n'appartienne pas à l'ICANN, que ce soit quelqu'un d'extérieur? Est-ce que cette personne de l'extérieur, comment est-elle, cette personne d'extérieur, comment est-elle sélectionnée? Quel est le devoir, quels sont les devoirs de cette personne? Quelles sont les conditions qu'elle doit remplir? Quelle est la portée de ce travail? Merci. Très bonne question. Bien sûr, dans les statuts, nous voyons, il est déterminé quelles sont les personnes qui pourraient être, quel type de personnes pourraient occuper un poste au conseil d'administration qui doit être familiarisé avec les questions liées à Internet, etc. Mais il y a de bons exemples de personnes qui ont participaient et qui avaient des connaissances assez limitées par rapport au fonctionnement du ONS, etc. Et ces gens ont apporté d'autres qualités qui ont été extrêmement enrichissantes. C'est ouvert à tous, oui, la seule exception c'est que la personne ne peut pas, ne doit pas être fonctionnaire d'un gouvernement. Les employés, les fonctionnaires d'un gouvernement ne peuvent pas occuper un poste au Conseil. Il y a eu des exemples de gens qui ont été des diplomates auparavant et qui ont donc démissionné à ces postes pour pouvoir occuper un poste après au sein du Conseil. Janice prend la parole. Y a-t-il des frais qui sont fournis aux personnes qui sont nominées? Oui, bien sûr, pour cette année. Il s'agit du travail, en général, du travail, d'un travail bénévole. Les membres du conseil reçoivent des compensations au niveau de certaines activités, se font rembourser quelques dépenses, mais n'ont pas une rémunération. Ils se font rembourser les frais de déplacement, etc. Comme je le disais avant, l'ICANN a besoin de nouvelles énergies. Et la meilleure façon de le faire, par exemple, l'année dernière, le comité de nomination a choisi l'un des membres du conseil qui était complètement nouveau pour ce que c'est que l'ICANN. Et c'était une personne qui ne venait pas du monde de l'ICANN. Il faut regarder donc en dehors de l'environnement ICANN. Car c'est des gens qui ont des visions différentes et c'est important. Den Djubrek de la Serbie. Je travaille dans un registre en tant que juriste et dans notre registre, nous avons mis en place un processus de gouvernance d'entreprise. J'ai une question. Nous essayons de développer des statuts parfaits, mais nous n'y sommes pas arrivés. On a fait appel à des documents de l'ICANN pour évaluer le processus d'élection des personnes qui allaient occuper les postes au conseil d'administration. Et nous avons eu des discussions par rapport à la mise en place de comités de sélection, comités de nomination. La première question, c'est comment élire les personnes pour constituer ce comité de nomination? Quel est le processus pour choisir les gens qui vont faire partie du comité de nomination? D'où viennent ces personnes? Les personnes nommées pour le comité de nomination ou élues pour le comité de nomination sont sélectionnées par les organisations de soutien, par l'ALAC, par le SSAC et le RSSAC. C'est un appel ouvert que l'on lance et par la suite, on suit les procédures prévues par ces organisations de soutien et par ALAC. Le président est désigné par le conseil d'administration. D'abord, il est membre du comité de nomination et après, il est président. D'abord, il faut qu'il soit membre du comité de nomination. C'est une nomination discrétionnaire de la part du président. C'est un élément démocratique du système parce que au moins nous avons toutes les parties constituantes ou tous les regroupements qui sont concernés dans ce processus. Le problème, c'est que au fur et à mesure que la structure évolue, par exemple la structure de la Genesto qui change tout le temps, il faut voir comment cela peut être reflété au sein du comité de nomination. Donc les SO et les AC ont différents regroupements au sein de l'ICANN et chaque regroupement, chaque partie constitutive propose un candidat et envoie des représentants. Certains comités propose des membres avec droit de vote, d'autres des membres qui n'ont pas droit de vote, d'autres proposent des observateurs, etc. Ces personnes viennent de différents regroupements de l'ICANN. Ils sont proposés comme candidats par les différents regroupements, à l'exception du GAC. Le GAC n'envoie jamais un représentant au comité de nomination, mais c'est une décision qui relève d'eux. Oui, il y a le président du GAC, mais d'après ce que je comprends, il y a eu un représentant du GAC. Et la raison, c'est que le sentiment de la majorité du GAC, c'est que il ne voulait pas être impliqué dans la sélection du leader d'une organisation, entre guillemets, privée. Janice reprend la parole. Je vais vous remercier. Je sais qu'il y a une autre question, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais donc vous remercier de nous avoir présenté ces informations. Les informations figurent aussi sur la page web. Si vous avez besoin d'autres informations, je vous les ferai passer. Et je vous demande de poser, si vous avez d'autres questions, de les poser directement aux intervenants. Merci. Bill, je vais t'inviter à rejoindre la table. Drake est le président du regroupement des parties prenantes non commerciales. C'est un regroupement qui se trouve au sein de la GNSO. Je vais donc présenter Bill donc, qui va nous parler. Et puis, nous allons entendre un représentant de la CNCUC, ce regroupement d'utilisateurs non commerciaux, donc Bill. Bonjour à tous, je m'appelle Bill Drake, je suis enseignant à l'université en Suisse. Je suis le président de regroupement d'utilisateurs non commerciaux. Est-ce que nous avons un ordinateur connecté à Internet pour pouvoir projeter Est-ce que vous pouvez entrer sur la page de notre regroupement? Nous avons un nouveau site web qui a été conçu par nos membres. Nous ne sommes pas une organisation qui a beaucoup de personnel, donc on travaille nous-mêmes dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nos membres ont conçu une nouvelle page web et qui est tout à fait nouvelle. Après cette réunion, je vais avoir une réunion et je vais donc voir notre ordre du jour. Je vais vous montrer quel sera notre ordre du jour. Si vous êtes intéressé à y participer, nous aurons aussi un atelier de travail demain. Je vais vous parler un petit peu de notre regroupement. Nous avons été constitués en 1999 et depuis, nous sommes au sein de la GNSO, le regroupement qui représente la société civile, les individus et des organisations de la société civile engagées dans des questions liées à la liberté d'expression, les libertés, les droits de l'homme et ce genre de questions. Cela figure dans la brochure qui vous a été distribuée. Et c'est celui-ci que vous voyez affiché, c'est le site de la GNSO. Nous faisons partie de la GNSO, mais nous avons notre propre site web. Comme vous devez le savoir, la GNSO a été restructurée il y a 2 ans. Nous avons maintenant 2 chambres, deux principales parties, les parties contractantes, les registres et les bureaux d'enregistrement, et puis un groupe de parties non contractées avec les différents regroupements. Et puis la dernière partie, le dernier organe, c'est le groupe de parties prenantes non commerciales dont il y a NPAC et notre propre regroupement. Donc si vous suivez cette carte, nous faisons partie d'un organe de la GNSO. Nous avons 300 membres du monde entier. 2/3 de nos membres se trouvent en dehors des États-Unis. Donc, nous sommes l'un des regroupements les plus internationaux, si vous voulez, de l'ECAN. Nous avons des membres dans plus de 70 pays et nous avons des membres appartenant à plus de 80 organisations. Nous sommes uniques au sein de l'environnement de la GNSO, dans le sens où nous sommes le seul regroupement où les individus peuvent s'engager de façon directe. La GNSO coordonne le processus d'élaboration de politiques pour les domaines de premier niveau générique. Et le groupe de parties prenantes de la GNSO élise les membres pour le conseil de la GNSO. Le conseil vote sur le développement de politique. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que nous sommes dans une position très intéressante car nous sommes l'un des rares membres réseau de la société civile qui participe à différents arrangements de gouvernance dans le forum de gouvernance Internet, etc. Et nous sommes un des rares regroupements de la société civile qui a le pouvoir de vote dans la prise de décision en matière de politique. C'est un processus intéressant et c'est une position intéressante, difficile, mais c'est un défi que nous aimons relever. Nous avons beaucoup de travail. Nous mobilisons les gens pour qu'ils viennent dans les réunions en face à face, des réunions qui ont lieu plusieurs fois par an. Mais la plupart de nos réunions se font en ligne. Nous avons des débats très actifs. Nos membres rejoignent des groupes de travail de la GNSO, des groupes de rédaction qui sont liés à l'élaboration de politiques. Et de façon générale, comme j'ai déjà dit, nous articulons un point de vue différent qui diffère de la plupart des points de vue de la GNSO, qui est parfois très orienté vers le business. Une partie de la GNSO est orientée à l'industrie et nous sommes dans une position intéressante. On est un quart représentant les représentants non commerciaux pour les gens qui travaillent dans différents environnements de la GNSO, lorsqu'il s'agit par exemple de la technologie des informations, de la technologie de l'information, etc. Pour vous donner un exemple, parmi les activités auxquelles nous participons de façon très activement à la première école de gouvernance d'Internet de l'Afrique qui a eu lieu ici à Durban la semaine dernière. Les membres de notre regroupement participer dans des séances sur différents aspects de la gouvernance d'Internet et nous avons également mis en place des ateliers sur l'expérience de notre regroupement et la représentation de la société civile au sein de la GNSO ainsi que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ce travail était très utile et après les discussions, nous avons eu des commentaires très positifs et j'espère que cela va amener une participation plus intéressante ou plus importante au sein de l'ICANN. Nous participons aussi à des événements parce que nous aimons nous amuser aussi. Et comme je vous ai dit, nous avons prévu des activités qui commencent à 9h du matin. Nous avons donc des dialogues qui vont avoir lieu. Nous aurons certaines discussions après cette séance sur des questions internes. Mais après, nous allons avoir d'autres sujets de discussion. Nous aurons une discussion sur la perspective africaine par rapport à la gouvernance d'Internet qui sera animé par le directeur de l'Association des communications de l'Afrique du Sud. C'est un réseau très important au niveau de la GNSO et qui est un membre aussi de la NCUC. Nous allons donc partager les points de vue africains par rapport à la gouvernance d'Internet. Nous allons avoir une visite de deux vice-présidents du GAC, une réunion d'une demi-heure. Je pense que ce sera une discussion très intéressante. L'autre brochure que je vous ai distribuée concerne l'atelier qui aura lieu demain, un atelier organisé sur le sujet des les GTLD génériques à usage exclusif. C'est une notion assez controversée qui concerne des noms de domaines comme Point, Patagonie, etc. et qui serait fermé, des noms de domaines que l'on considère fermés. Cela fait l'objet de controverses au sein du GAC aussi pour savoir comment équilibrer le souhait de faire participer davantage de gens et en même temps préserver la culture et les intérêts de certaines régions, surtout quand très souvent il y a des enregistrements défensifs qui ont lieu ou des décisions qui sont prises sans que les gens de l'extérieur en soient au courant. Donc après une prise de décision initiale par le guide de candidature de permettre ce type de TLD à usage exclusif où les candidatures ont avancé. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse. Les gouvernements ont commencé à s'inquiéter. L'Union des télécommunications, l'UIT, a exprimé son avis également. Nous parlons donc d'une organisation qui contrôle Point Hôtel. Alors, personne d'autre ne pourra utiliser ce nom de domaine. Il s'agit donc de différentes expressions dans ce sens et je pense que demain, le débat sera très intéressant avec le représentant des différents regroupements et différentes parties prenantes qui ont des opinions différentes.
La NCUCU n'a pas une position unique sur ce thème. Nos membres ont leurs propres opinions sur ce qu'est l'intérêt public et bien de fois, cela signifie que nous n'avons pas une position unique sur un point déterminé. Donc nous voulons continuer ce débat, non pas pour défendre, pour plaider pour une position en particulier ou pour favoriser une partie corporative en particulier, mais pour élargir la discussion publique en accordant toujours l'intérêt principal à l'intérêt public. Voilà le type d'activité auquel nous faisons, auquel nous intervenons. Nous sommes toujours présents aux réunions de l'ICANN. Il y a des membres qui participent aux élections entre la NPOC et la NCUC. On élit 6 membres du conseil de la GNSO pour représenter le regroupement des utilisateurs non commerciaux dans le processus de développement de politique. Nous travaillons avec eux et nous entretenons avec eux régulièrement. Je devrais dire enfin que lorsque j'ai parlé à d'autres occasions avec des boursiers, je me demande toujours quelle est la différence entre la NCUC, la NPOC et ALAC, parce que je sais que l'on parle beaucoup d'ALAC dans le programme des boursiers. L'ALAC est un groupe consultatif. Il a un statut différent de celui des organisations de soutien. Il est directement concerné par la définition de politique. L'ALAC a une fonction de conseil, tandis que la GNSO s'occupe du développement des politiques. D'autre part, l'ALAC aborde tous les thèmes concernant l'ICANN, depuis tout ce qui concerne le côté organisationnel et le reste de la GNSO. Nous nous focalisons en particulier sur le GNSO, c'est-à-dire les noms de domaines génériques de premier niveau. Cela implique aussi qu'il y a des personnes à titre individuel qui peuvent être membres d'AtLarge. Moi aussi, je travaille à AtLarge. J'ai travaillé dans les deux environnements. Pendant 5 ans, j'ai fait partie d'une organisation européenne, AtLarge. Mais lorsqu'on fait des organisations au sein de l'AtLarge, on tient en considération l'addition des différentes structures AtLarge et les personnes ne peuvent pas y participer à titre individuel. La NCUC et l'ALAC ont une histoire en commun. Bien des fois, il y a des accords et des désaccords. Le NCUC a été en général plus strict quant aux points sur lesquels se centrent les droits de l'homme et les droits civils, tandis que l'ALAC, en particulier, s'est plutôt orienté vers la protection des consommateurs. Par exemple, des questions telles que le WHOIS, pour nous, sont importantes pour la confidentialité des données, pour les registrer dans les WHOIS, les registrants, pardon, et ils sont, eux, penchent plutôt pour une ouverture plus grande sur la liberté et la conformité par rapport à l'application de la loi. Nous essayons de toute façon de travailler de manière collaborative. Je vais accepter vos questions. Enfin, je vais répondre à vos questions. Donc, comme j'ai une réunion à 9h, il se peut que je vous quitte à 9h-5. Il se peut que mes deux collègues puissent vous raconter davantage des choses à propos de la GNSO. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en particulier dont vous voudriez parler. Bill, c'est Janice qui parle. Bill a souligné quelque chose de très important. Il a préparé un ordre du jour et le jour où l'on s'occupe des regroupements, ce que vous pouvez faire, c'est de lire justement l'ordre du jour pour chacun des groupes de la communauté. Je vous ai donné cette information, je vous dis ce que nous allons faire aujourd'hui. Voyez un peu si vous êtes intéressé à participer à cette discussion. Donc, rendez-vous sur le site web, ouvrez ce que concerne chacun des regroupements et voyez si vous voulez y participer. Bien sûr, vous pouvez faire partie de ces chambres parce que je ne trouve pas un terme plus approprié, si vous êtes capable de mener à bout plusieurs tâches en même temps, vous pouvez commencer à travailler dans différents points, mais vous n'êtes pas obligé de continuer à être un peu partout au sein de l'organisation. Si vous trouvez un espace où vous pouvez faire des grandes modifications, il y a beaucoup de membres de l'ICANN qui ont changé de lieu de résidence pendant qu'ils travaillaient pour l'ICANN, ou Bill qui travaille, par exemple, qui joue ces deux rôles. Vous devez tenir compte de ceci. Demain, il y aura une séance sur le regroupement des organisations sans but lucratif. Et ça, c'est une autre communauté, un autre groupe de parties prenantes. Non, elle se reprend. Ou un regroupement au sein du groupe des parties prenantes. Et comme Bill, passer tous les cycles, je vous rappelle que la présentation de nouveaux venus pour la présentation des boursiers hier, il y a un lien qui vous renvoie directement à tous les sigles. Lorsque vous êtes dans les séances avec les regroupements, ouvrez cette liste de sigles, parce que comme ça, lorsque vous entendrez dire chacune de ces sigles, vous ne serez pas perdu. Donc, si vous les avez à portée de la main, vous pouvez consulter cela très rapidement et savoir ce que l'on a dit de telle ou telle personne ou de tel regroupement. Merci, Janice. C'est Belle qui prend la parole. Rendez-vous sur le site web. Il y a des vidéos des réunions précédentes. Il y a beaucoup de conférences sur différents thèmes. Nous commençons déjà à y mettre certaines déclarations de politique de la dernière décennie dans notre site web recensé. ncuc.org. Janice. Et maintenant, Patricia Sango du Sénégal. Je m'appelle. Je suis boursière. Et je suis aussi membre de du NCUC. Je n'ai pas pu être présent à l'école sur la gouvernance d'Internet d'Afrique, mais j'ai pu me rendre ici et j'ai pu suivre cette réunion en ligne. On pourrait vous donner avoir un aperçu général des thèmes abordés dans cette école africaine. C'est Bill qui prend la parole. Bon, il y a eu beaucoup de thèmes. Vous pouvez vous rendre sur Google, mettre le titre de cette formation. Je ne me rappelle pas exactement le lien. Nous avons parlé des chiffres, de noms, de questions très vastes sur la gouvernance d'Internet, sur le développement, sur l'Afrique, sur les problèmes et les défis à relever pour représenter la société civile au sein de l'ICANN. Nous avons abordé beaucoup de thèmes. C'était un programme de 3 jours. Et tout le monde a été vraiment ravi de ce que l'on a fait. Il y a eu des interactions très intenses, avec des débats vraiment profonds et riches. Bon, maintenant, c'est Adrien Quesada du Costa Rica qui prend la parole. J'ai 2 questions à poser. La première, il y a quelque chose que je ne vois pas trop clair. Bon. Puisqu'on dit qu'il n'y a pas de questions bêtes. Quelle est la différence entre le NCUC et les communautés at large? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Bill qui a pris la parole. L'une fait partie d'une organisation de soutien, une SO, et l'autre fait partie d'un comité consultatif. Donc, ils jouent des fonctions différentes. L'un d'eux s'occupe de toutes les questions générales de l'ICANN et l'autre s'occupe des TLD génériques. Le NCUC accepte des membres à titre individuel. Chez ALAC, on peut faire partie d'Atlarge, mais pour y participer et avoir le droit de vote dans la structure de l'ALAC, il faut y participer par l'intermédiaire d'une organisation. Je cherche le mot approprié pour définir cela. Je crois que nous avons une approche un peu plus progressive par rapport à la participation de la société civile. Nous parlons de la société civile, mais chez Atlarge, on ne s'occupe pas que de la société civile. Il y a aussi des entrepreneurs, des gens qui font partie du monde commercial, qui trouvent important d'être représentés chez Atlarge. Nous, nous représentons en particulier le groupe des utilisateurs non commerciaux. Maintenant, le représentant du Costa Rica reprend la parole. La deuxième question se rapporte à mon contexte. Je suis avocat, je le dis encore une fois de plus. Cela peut se passer un peu partout, hein. Mais dans mon expérience personnelle, je suis vraiment liée au thème que vous abordez dans votre groupe. Ces thèmes me sont très familiers. Mais si je vois, par exemple, un peu ce qui se passe dans le formulaire de registre, je dis que je suis un utilisateur individuel qui n'est pas représenté par aucun autre groupe. Donc, si je voulais m'intégrer dans votre groupe, est-ce que je serais exclue pour pouvoir participer à un autre groupe? C'est Bill qui prend la parole. Non, mais quand il faut voter, par exemple, au sein de la GNSO, on ne pourrait pas avoir d'autres activités dans le registre, par exemple, et en même temps, dans le NSCUC, pour voter au nom des utilisateurs non commerciaux, il y aurait là un conflit d'intérêts. C'est Janice qui prend la parole. Je contrôle un tout petit peu le temps. Bill dit qu'il peut accepter une autre question. Bon, une autre question, et ensuite, nous allons quitter la salle, puisque les membres du GAC commencent déjà à s'approcher. Je suis Kebob Kabwana du Kenya, je suis boursier, j'ai participé à l'école africaine de gouvernance sur la gouvernance d'Internet dont parlait Bill. Et je voudrais savoir comment on pourrait trouver un équilibre entre les différentes fonctions que quelqu'un remplace. Si vous faites partie de l'ALAC et du NCUC, si par exemple l'ALAC essaie de mettre en pratique un certain ordre du jour et cela va à l'encontre de ce que pose le NCUC, bon, comment faisons-nous? Bon, Bill prend la parole. En termes généraux, j'équilibre ça avec beaucoup de café. Mais en général, je me sens mieux. Je me sens plus à l'aise dans le NCUC. Je fais partie du comité de direction d'un comité européen. Donc, mais cela ne signifie pas que l'ALAC est quelque chose d'étranger à moi ou que cela soit séparé des structures à large en général. L'organisation européenne à large, c'est quelque chose, c'est un espace où j'ai une forte participation. Mais lorsque l'on négocie avec d'autres intérêts, d'autres représentants, d'autres intérêts au sein de d'ALAC, votre opinion, enfin, ne peut pas toujours prévaloir. On peut toujours avoir, un désaccord honnête, salutaire avec d'autres personnes, avec des personnes qu'on respecte et qu'on aime bien, mais qui ont une orientation différente. Encore une fois, vous êtes tous les bienvenus dans notre réunion qui va se dérouler dans la salle d'à côté. Si cela vous intéresse, je vais vous quitter. Et l'on nous a dit que les membres du GAC arrivent. Miley, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Miley est l'une de nos représentantes, membre du conseil de la GNSO du Brésil. C'est quelqu'un qui défend les droits de l'homme. Elle a travaillé de façon active pour le processus de développement des politiques, pour la représentation aussi bien de MPOC que de NCUC. Comme une représentante du conseil de CNSG au sein de la GNSO. Bon, combien de sigles? Et Rafik Damak est membre depuis assez longtemps de la NCUC. C'est notre représentant du NOMCOM. Il vient du Tunis, mais il habite au Japon. Nous sommes tous un peu compliqués. Moi, je suis états-unien et j'habite en Suisse, donc ne me demandez pas pourquoi et comme ça de suite. Nous avons tous des identités complexes. C'est Janice qui prend la parole. Donc, merci énormément de cette présentation que vous avez faite. Nous allons donc tous quitter les lieux, reprendre nos affaires pour que les membres du GAC puissent venir dans la salle. Il reste ici du café pour les membres du GAC. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous en servir. Je demande aux boursiers d'aller vers la partie de l'arrière de la salle pour que l'on puisse sortir sans faire trop de bruit. Et que vous rendiez sur le stand de l'ICANN pour voir comment vous pouvez structurer votre journée. Cherchez-nous et je vous souhaite une bonne journée. Voilà.